Excellent jeudi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui à l'émission. Il y a le chef Danny Saint-Pierre qui, vous savez, tout au cours de l'été est venu nous rendre visite à tous les jeudis pour nous parler de plats, évidemment, et de peut-être des choses différentes en cuisine. D'ailleurs, vous êtes toujours appelé à lui envoyer ses questions. Hein? Il aime bien, bien ça, être pris au piège avec vos questions en termes de cuisine. Et là, il va s'intéresser, en fait, aux idées de lunch pour la rentrée. Tu sais, on est un petit peu tanné là, du sandwich jambon fromage avec de la moutarde ou de la mayo. Là. Alors, Danny va réinventer, on peut dire ça comme ça, les lunchs pour la rentrée. Et aussi, ben, on revient sur la popularité des microbrasseries au Québec. Il y en a partout, partout, partout. On se promène. Je pense que chaque région a 5-6 microbrasseries de la très bonne bière et on est amateur de bière au Québec. Donc également, on va en parler. C'est aux alentours de 11 heures. Mais pour tout de suite, ben, la prochaine semaine, on va déclencher les élections au Québec le 23 août exactement, même si on s'entend que les partis sont déjà en campagne électorale. On en parle beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, on va voter le 1er octobre à mettre à votre agenda, quoi qu'on va vous le rappeler là, assez souvent d'aller voter. Je sais qu'il y en a.
On ne pourra même pas l'oublier.
Je pense qu'on ne pourra pas l'oublier, Réjean-Pierre.
Même si on veut.
Même si certaines personnes aimeraient bien ça également l'oublier, parce que c'est sûr qu'on va en parler beaucoup, beaucoup de cette campagne électorale cet automne dans les médias. Puis je sais qu'il y en a qui, je lisais là, sur les médias sociaux, on est déjà tannés. Mais ça va bien. On a encore une trentaine, 39 jours de campagne à faire. Alors, est-ce que vous avez encore un intérêt pour la politique? C'est la question qu'on vous pose ce matin. 1-866-790-9850 514-790-9850 avec nous, Régent Parent. Bonjour, Régent. Merci d'être là.
Bonjour.
Ex-président de la Centrale des syndicats du Québec. On peut lire également dans le Journal de Montréal et aussi Lise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal et à De Gazette. Salut, Lise.
Bonjour.
Et Christian Dufour, qui est politicologue. Bonjour, Christian.
Bonjour.
J'ai envie de faire un tour de table tout de suite pour parler de l'air ambiant, parce que, bon, cet été, évidemment, on savait qu'il allait y avoir des élections, on en parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Qu'est-ce que, dans votre entourage, est-ce que vous sentez que les gens ont un intérêt? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on est passionné? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de passion, là, présentement.
Non, il n'y a pas beaucoup de passion. Je le sens pas, en tout cas. Moi, dans l'entourage, évidemment, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens dans mon milieu dont c'est le métier de suivre la bête. Mais c'est comme si on... D'une part, ça fait trop longtemps qu'on est en campagne. On vit vraiment les effets pervers là, des élections à date fixe. Et deuxièmement, comme si les résultats étaient déjà connus, parce que ça fait tellement longtemps qu'on nous sort à peu près le même sondage. Donc, tout est mis, la table est mise pour pas avoir beaucoup de fun.
Régent?
Ben, je partage, excusez, un bout de l'explication de Lise, c'est que la campagne électorale, je ne vais pas dire une année, mais d'après moi, c'est presque 18 mois de campagne électorale où on a droit à la distribution de bonbons des libéraux. C'est peut-être l'effet pervers, comme le dit Lise, d'élection à date fixe. Il y a un sinistre qui était ambiant, qui est déjà présent ça, depuis plus longtemps. Tous les impacts, la commission Charbonneau... Et en même temps, puis je suis d'accord, là, moi aussi, j'ai pas senti d'effervescence autour des élections cet été, puis je me suis promené pourtant beaucoup. C'est comme, tu sais, regarde, tu viens pas déranger mon barbecue, j'ai d'autres choses à faire que ça. Et moi, je pense que de ce côté-là, la population, il y a comme un certain désabusement. Puis jusqu'à un certain point, Lise parlait de nos collègues là, de façon générale. Ça en devient mêlant. Là. Je regarde hier un sans-façon qu'on peut penser un chroniqueur du Devoir très crédible, que le vrai François Legault se lève. Je regarde le collègue Joseph Facal le matin qui dit, ben là, c'est tout un défi qui se pose, les nationalistes, les souverainistes. Puis, tu sais, assez que ça en devient mêlant quand tu finis de lire son article, tu dis, ben là, pour qui voter? Tu regardes un Mathieu Bock côté qui parle de il devrait y avoir alliance entre les péquistes et les caquistes, alors que les caquistes sont beaucoup plus copies conformes des libéraux.
Ben que, oui, que le Parti québécois, ben oui.
Joe Public, à un moment donné, il dit, ben, je m'en vais où dans tout ça? Puis finalement, il a moins envie d'y aller.
Christian?
Moi, je suis pas totalement en accord avec mes deux collègues, je vous avoue, là-dessus. D'abord, est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait de la passion pour la campagne électorale? Je veux dire, c'est pas un trip, là, c'est pas faire l'amour, là, c'est pas aller voir un film, là. C'est une campagne électorale, c'est la démocratie en action. Et là, on est encore en vacances. Donc, on peut pas juger à partir de l'état d'esprit des gens aujourd'hui. Moi, je suis pas sûr du tout que les résultats sont connus d'avance. Les dernières campagnes électorales, les dernières élections, ceux qui avaient gagné la pré-campagne, c'est pas ceux qui ont gagné l'élection. La campagne électorale est très importante, elle peut tout changer. Et c'est ce qui va décider s'il y a un intérêt ou pas pour l'élection. Vous savez, ce qui fait qu'on revient à la politique souvent, malgré les critiques, le désabusement, c'est que la politique est faite souvent de choses qui arrivent qui ne devaient pas arriver. Et donc, moi, je trouve qu'il est vraiment trop tôt pour dire que ça intéressera pas les gens. Et je trouve qu'il y a un côté sérieux, là. C'est une campagne électorale. On est en démocratie. C'est pas rien. Et moi, je commence à en avoir ras-le-bol, en fait, d'un tas de chroniqueurs. Puis je parle pas là, ni de Lise ni de Réja, qui nous disent qu'ils iront pas voter. Puis que là, c'est trop compliqué. Puis, hey, là, la démocratie, c'est précieux, là. Puis c'est en déclin dans le monde, hein. Il y a de plus en plus de dictatures partout sur la planète. Oui. On a la chance de vivre dans une vraie démocratie où les gens vont encore voter. À la dernière élection, il y a 70% des gens sont allés voter. Donc moi, j'embarque pas là dans le trip. Là. On n'a pas d'enthousiasme, c'est bien terrible. Je pense qu'on a un devoir à faire. C'est l'exercice démocratique qui est frustrant. C'est clair que c'est très frustrant parce que moi, la façon dont je vois ça, c'est que on est au centre. La CAQ de François Legault a de la difficulté même à s'assumer comme parti de centre-droit. Moi, je trouverais que ce serait bon, d'ailleurs, qu'il s'assume plus comme parti de centre-droit. François Legault aime pas ça. Donc, puisqu'il y a plus de questions référendaires ou la question nationale n'est pas à l'ordre du jour, puisqu'il y a pas de débat idéologique vraiment, sauf Québec solidaire, là, qui est dans un autre monde, là, ils sont dans autre chose, mais la CAQ, les libéraux et le PQ sont au centre. Donc, le seul enjeu qui reste, à mon avis, mais c'est un enjeu qui peut intéresser la population, est-ce qu'on met dehors, pour une partie de la population, les méchants libéraux? C'est ça l'enjeu qui reste, en fait.
Et c'est peut-être, on sait pas ce qui va arriver, mais dans les sondages jusqu'à maintenant, en fait, la CAQ, Lily, tu le disais que c'était peut-être joué d'avance, c'est comme le Christian.
On a l'impression.
On sait jamais, là.
Ouais, oui, mais n'oublions pas que l'appui des libéraux est à 30%, c'est un appui très solide. C'est vraiment leur plancher.
Il y a une bonne base 35, chez les libéraux, ouais.
Alors qu'à 35%, la CAQ, il y a un côté volatile. Et moi, j'exclus pas que dans le courant de la campagne, il y a des mouvements. C'est très, très possible. Entre autres, de la CAQ vers le PQ. Le PQ n'est pas mort non plus. Il n'y a rien de joué encore, là.
Non, je suis d'accord qu'il n'y a rien qui est joué, mais si on prend un cliché de la situation aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui se disent « bon, ben, c'est réglé », mais là, c'est sûr. La campagne n'est même pas officiellement commencée. De toute façon, il y a bien des choses qui se règlent le soir du débat, hein? Ça, faut pas oublier qu'il y a quand même.
On a vu des chefs.
Oui, parties, voilà. Ouais. Alors, ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer. Moi, j'ai très hâte à ça parce que justement, tout le monde est au centre, à part Québec solidaire, évidemment, qui est dans la stratosphère. Mais, des fois, ils sont difficiles un peu de toute façon, tout le monde a de l'argent de l'État pour tout le monde. Ça, c'est clair. On est très généreux, hein. On a vu hier, Monsieur Couillard, avec son 860 millions, annonce qu'il a été qui est tombé complètement à l'eau avec l'affaire de François Ouimet.
Oui, ça a beaucoup fait jaser, justement. Est-ce que de commencer, là, vous allez me dire, la campagne n'est pas commencée, mais officieusement, est-ce que ça peut vraiment mettre des bâtons dans les roues? On va finir par l'oublier dans quelques semaines.
Les autres vont s'en servir, par exemple. C'est ça l'affaire.
Oui, mais en même temps, là, la semaine prochaine, François Ouimet va être enterré. Moi,
parce que là, Enrico Ciccone vient justement être candidat au PLQ. Là, on l'annonce en ce moment même, là, dans Marquette, d'ailleurs.
Ben, je vais revenir un peu sur ce que Christian mentionne, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Oui. Il a raison. La démocratie, c'est important. Et il faudrait surtout pas que les politiciens là-dessus. C'est un peu dans quand on regarde le décor actuellement, là, ça reste un décor qui est décevant. Puis si on met en toile de fond l'international, quand tu regardes un Trump aux États-Unis, un Erdogan en Turquie, tu regardes la démocratie jusqu'où, finalement, elle peut être détournée. Effectivement, il y a intérêt pour le citoyen à aller voter. Moi, je pense pas que Lise ou moi-même ou même les autres collègues chroniqueurs qui doutent de la pertinence de voter iront pas voter. Je pense au contraire, il faudrait peut-être remettre notre démocratie en santé. Puis de ce côté-là, t'sais, moi, quand je regarde le tableau actuellement, juste parce que ça semble être la CAQ semble avoir des bonnes chances. Là, on voit du monde qui quitte le navire. Je les traiterai pas de là parce qu'habituellement, c'est là qui quitte le navire en premier. Mais il y a du monde qui ont tendance à quitter le lieu d'origine, puis là, à venir, ça envoie un message que c'est pas des gens qui ont une vision, qui ont pas le sens du service public comme un Paul Gérin Lajoie pouvait l'avoir. Ils ont plutôt le sens de leurs intérêts, puis dire à quelle place que je peux aller me loger
pouvoir,
pour être sûr d'avoir un job le lendemain des élections.
Oui, Christian?
Ouais, puis il faut pas oublier que on nous dit que je pense que 20 ou 25 % des électeurs qui se décident dans les deux derniers jours de la campagne. Oui. L'électorat est devenu très très volatile. C'est plus comme avant où il y avait des appartenances partisanes enracinées de génération en génération, sauf peut-être pour les libéraux. Je trouve que les libéraux, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'ils sont un peu sous-estimés, c'est que leur électorat, je trouve, est plus partisan, plus ancré. Puis, je suis content de ce que dit Régent, c'est que la démocratie sur la planète là est vraiment en train d'être discréditée beaucoup. On a la chance au Québec, il y a un tas de problèmes, je le sais, les gens sont frustrés, mais ça peut être dangereux, ça, parce qu'on n'est plus capable d'apprécier ce qu'on a. Moi, j'ai dit souvent à cette émission aussi, qu'on est quand même une oasis ou un oasis, je sais jamais le genre du mot, un oasis de prospérité, de liberté et de sécurité. Ça vaut quelque chose. Ça. On a la vague populiste qui diffère dans beaucoup de pays en Occident. C'est présent en Ontario, juste à côté de chez nous. Oui. C'est présent aux États-Unis, c'est présent en Italie. On l'a pas au Québec. Donc, c'est pas vrai que le système est pourri, qu'il n'y a rien qui marche. C'est précieux, la démocratie. Puis quand je vois des gens, je vois Marc Séguin, là, le peintre Marc Séguin, qui est peut-être un bon peintre, là, je le connais pas, qui nous disent de façon nonchalante, c'est vraiment l'artiste désenchanté. Moi, j'aurais pas voté. Quel message veut-il envoyer? Est-ce qu'il veut envoyer le message aux gens? Allez pas voter? C'est ça le message?
Ça, là, c'est. Moi, ça me renverse cette histoire-là de désinvolture face à ce cadeau. Je sais que ça fait quétaine de dire qu'il y a des gens dans le monde qui meurent pour avoir le droit de vote, mais la réalité, c'est que c'est vrai et que nous, on l'a. Et puis, comme dit Christian, il y a pas ici de d'émule de Rob Ford ou de. On a encore là. La table est mise avec des gens normaux, honnêtes, qui croient à la démocratie, oui. Qui veulent pas aller au pouvoir pour détruire la démocratie, ce qu'on voit ailleurs. C'est pas rien, là.
Mais puis ça fait des conséquences quand même. Quand on parle à Donald Trump, là, qui, d'ailleurs, les journaux se sont rebellés, là, aujourd'hui, là, les 350 journaux aux États-Unis, qui dénoncent justement la façon dont Donald Trump traite les médias, ça a des répercussions chez nous aussi. On peut le voir sur les médias sociaux. Ben moi, on peut voir que les gens, maintenant, il y a une espèce de désinvolture face à la politique. Puis on dit, bon, Donald Trump dit la vérité quand on sait très bien.
Puis nous, en plus, on a eu la commission Charbonneau. Et la commission Charbonneau, je l'avais prédit à l'époque, qu'on risque de s'en sortir encore plus mal en point qu'avant. Bon, on a réglé des questions. Je pense de corruption, peut-être pas toutes, mais on en a réglé certaines, les plus évidentes en tout cas. Mais l'affaire, c'est qu'on sort de cette chose-là avec l'impression que le ménage n'a pas vraiment été fait, qu'il n'y a pas vraiment des gros noms qui sont allés en prison, ou s'ils sont allés, ils sont restés à peine un an, je pense à Merveillancourt, et que finalement, cet argent-là, 40-quelques millions, ça a donné quoi au fond? Et ça, là, c'est... Des fois, je me dis quasiment que Jean Charest avait raison, de que c'était pas une commission qu'il fallait, c'était une enquête. Le problème, c'est que les gens qui font l'enquête, pouvaient-on s'y fier?
Ça, c'est un autre dossier, hein, Régent?
Catherine, vous faisiez référence, bon, les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, là, c'est pas l'ensemble de la population, là. Je sais que dans les médias, vous êtes pas la seule. On va toujours dire, regardons ce que la twittosphère en dit. Mais la twittosphère, c'est pas représentatif. C'est en bonne partie le royaume des gens bêtes, incultes et méchants.
Oui, mais en même temps.
Twitter, Christian, c'est 10% de la population. Mais Facebook, là, c'est à peu près 90%. Je parle pas d'Instagram et Snapchat, mais pour Facebook, c'est à peu près monsieur, madame, tout le monde.
Moi, je connais un tas de gens, là, qui ont une vie à vivre, là, qui ont autre chose à faire que d'envoyer des commentaires sur les réseaux sociaux politiques. Moi, je trouve que... Parce que c'est frappant à quel point beaucoup de gens découvrent à quel point les gens sont collants, les gens sont frustrés, les gens sont intolérants. Non, moi, je pense pas que la population à large est comme ça. Et je regrette beaucoup, mais c'est un peu inévitable peut-être, là, qu'on surévalorise à ce point-là les commentaires sur les réseaux sociaux. C'est pas représentatif.
C'est encore vrai, Christian, ce que tu mentionnes, que c'est pas toute la population. Mais cependant, c'est les tendances qu'il faut voir à travers ça. Moi, il y a un des chiffres un matin qui m'a frappé par rapport à... Puis là, je parle pas du Québec, on va revenir aux États-Unis avec la sortie des médias, 300 médias américains. Il y a des sondages qui ont été menés. Il y a un tiers des partisans républicains qui seraient pour donner le pouvoir au président de pouvoir fermer un média s'il le juge nuisible. Et ça, c'est sûr que c'est pas toute la population américaine. Des fois, on devient... Monsieur Trump, il est effarant, mais quand on pense que 50% du monde qui ont voté pour lui, c'est encore plus effarant. Mais quand tu dis un tiers de républicains, fait que tu vois qu'il y a des tendances qui se dessinent. Il y a une maladie insidieuse par rapport à la démocratie. Ouais. Puis t'as raison, t'as déjà dit, oups, un instant, il faut se réveiller. Puis au contraire, pas tuer la démocratie, mais inviter le monde à aller voter puis à faire des choix éclairés.
Et à s'informer aussi.
À s'informer, ouais. Ben oui, puis à savoir, parce que c'est pas tout de vouloir changer. Puis on veut sortir des libéraux, mais on veut sortir pourquoi?
Ouais.
Pour faire quoi? Pour s'en aller vers quoi?
Si on ne sait pas
que tu t'en vas, t'es aussi bien de rester avec eux autres.
Moi, je prétends d'ailleurs, écoutez, c'est pas une hypothèse scientifique, que les Québécois veulent pas changer à ce point-là. Ils veulent se débarrasser peut-être des libéraux.
Ça serait peut-être pour ça qu'ils iraient du côté de la CAQ, parce qu'on a de moins en moins de points de différence.
On vote pas pour le parti, mais on vote pour pas que l'autre rentre. C'est une nouvelle façon de penser maintenant.
On change la troupe d'acteurs pour aller jouer à la même pièce.
Ça, c'est bien dit, ça aurait genre 10h21, on s'arrête quelques instants et on prend vos appels après la pause 1-877-790-9850. Est-ce que vous avez encore un intérêt pour la politique? 1-866-790-9850. On va prendre quelques appels. Patrick est avec nous. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va, Patrick. Est-ce que vous trouvez que c'est important de s'intéresser à la politique et à tout le moins, en tout cas, d'aller voter pour le 1er octobre?
Ben, moi, je trouve que ne pas aller voter, c'est irrespectueux envers notre histoire parce qu'on a tellement travaillé pour avoir le droit de vote que c'est ridicule de ne pas le faire. Puis ceux qui le font pas, après, c'est leur problème à quelque part. Oui, je trouve ça très important. Je trouve ça le fun, les élections adaptiques, parce que quand ça recommence, comme à la fin de l'été, on dirait que l'actualité revit un peu, parce qu'il ne se passe pas grand... Il se passe pas grand-chose l'été, en actualité, la plupart du temps.
C'est plutôt tranquille, effectivement, Patrick, ouais.
Oui, c'est tranquille.
Ouais.
Mais ce que je trouve déplorable, par contre, c'est... Moi, je suis syndiqué dans la vie, puis je suis responsable de mes propres choix. Puis je trouve ça dommage quand les syndicats payent avec mon argent pour mettre des cartes avec une décision, un choix qu'ils nous imposent. Je sais pas si vous comprenez, là.
Ben oui, puis je pense qu'on peut peut-être faire réagir Régent Parent là-dessus.
Oui, parce que moi, je regarde là, le tableau actuel. Là, c'est, s'il y a une centrale syndicale qui se prononçait pour un parti qui faisait de la politique partisane, je peux utiliser l'expression, c'est la FTQ. Puis là, c'était vrai jusqu'en 2014. Depuis 2014, à ma connaissance, puis même en 2014, à l'élection au niveau du Québec, ils n'ont pas pris parti, ils n'ont pas pris position. À l'élection fédérale, ils n'ont pas pris position non plus. Du côté des autres centrales, il y a toujours eu comme des espèces de plateformes, une espèce d'éducation au membership en termes d'exprimer la position des partis, puis en fonction des revendications qui étaient portées par les membres, sans indication de vote. Fait que ça, c'est de moins en moins vrai que les syndicats prennent parti, mais en même temps, on ne se contera pas d'histoire, là. La politique, je veux dire, elle a une incidence sur la vie de travailleurs et que les syndicats fassent un bout d'explication sur où s'en vont les partis. On en voudrait un peu aux syndicats des fonctionnaires de ne pas réagir aux déclarations de François Legault qui parle de fermer des postes, tu sais, à quelque part, là. Et moi, je trouve qu'on en demande souvent beaucoup aux syndicats, mais finalement, on élit un exécutif, on élit des délégués, ils ont un mandat de représentativité. Et je pense pas que la majeure partie des sommes syndicales sont consacrées à l'action politique. Mais veux pas, la politique, elle s'occupe de nous autres. Fait qu'il faut s'en occuper un peu.
Oui, puis de toute façon, que vous soyez syndiqué ou pas, puis peu importe ce que votre syndicat vous dit, penche pour un parti ou pour un autre, rendu, quand c'est le temps de voter, vous décidez pour qui vous votez, là, de toute façon.
Exactement.
Merci beaucoup, Patrick. Dominique?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Dominique. Est-ce que vous avez un intérêt pour la prochaine campagne électorale?
Oui, j'ai un intérêt. Moi, j'aimerais ça revenir sur un volet sur le qu'est-ce que la démocratie. Parce qu'on se figure beaucoup comme « Ah, c'est juste voter aux 4 ans », sauf que la démocratie, c'est aussi le pouvoir pendant ce 4 ans-là aux citoyens de pouvoir s'exprimer puis de pouvoir être dans les différentes institutions décisionnelles. Et c'est ça. Puis si on regarde cette vie-là au niveau du Québec avec les dernières années libérales, ça a été beaucoup coupé. Si on prend par exemple la conférence régionale des élus, Ben, c'est un endroit où les citoyens puis les élus pouvaient s'exprimer, puis ça, ça a été saboté. Fait que c'est une partie de la démocratie qui se voit un peu amputée à travers ça. Ou bien, si on regarde, vous, de la réforme de la santé, eh bien, avant, chacun des établissements de santé avait un conseil d'administration élu, entre autres, par la population ou différentes instances au moins représentatives du milieu. Et là, maintenant, ces conseils d'administration-là sont, somme toute, nommés par le pouvoir ou directement. Exemple, je prends comme le Bas-Saint-Laurent, ben plutôt qu'il y en ait dans chacun des établissements, mais c'est tout concentré dans un seul conseil d'administration pour l'ensemble de la région. Mmh. Donc ça, c'est des formes de démocratie que, oui, la démocratie, c'est voter aux 4 ans, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Puis ça a été beaucoup saboté. Puis finalement, on pense aussi, pour faire un dernier exemple, ce qui est des commissions jeunesse, qui était un organisme qui représentait un peu via le SAGE, le secrétariat à la jeunesse, où justement l'ensemble des jeunes du Québec, qui étaient des jeunes bénévoles, pouvaient aller justement amener des projets qui allaient être financés, qui représentaient vraiment les besoins de ces jeunes-là et qui dynamisaient le milieu et qui étaient aussi un exemple de la démocratie. Donc oui, la démocratie, je pense que c'est voter aux 4 ans, mais c'est beaucoup plus large que ça si on veut réellement une démocratie en santé. Donc c'est d'avoir aussi des institutions qui puissent permettre aux citoyens d'exercer cette influence-là et ces projets-là de collectivité pendant ces mandats-là et non juste lors des élections.
Et Dominique, je comprends ce que vous dites, mais en même temps, comme citoyen, quand on veut vous parler de démocratie, est-ce que vous, qu'est-ce que vous faites à tous les jours pour justement exercer cette démocratie-là?
Ah, ben moi, je vais vous avouer qu'avant, j'étais sur l'une des institutions que j'ai nommées là, bénévolement, juste avant que ça soit pris. Et justement, il y a plusieurs projets collectifs et entre autres, pour qu'un projet lève, ben ça prend des partenaires. Puis justement, quand tu détruis plusieurs de ces partenaires-là, ben il y a des initiatives du milieu qui meurent dans l'œuf. Et aussi des gens qui s'impliquaient bénévolement, soit sur ces conseils d'administration-là ou ces organismes-là, et qui n'existent plus maintenant. Donc oui, on veut que les gens participent à la démocratie, mais c'est sûr que si on détruit les leviers dans lesquels ils puissent s'impliquer, ben là, c'est comme un peu faire de la fausse promotion de qu'est-ce que la vraie démocratie.
Merci Dominique de votre appel. Jacques, bonjour.
Oui, bonjour. Écoutez, je vais vous dire honnêtement, l'intérêt pour la politique, pour moi, je l'ai personnellement, que ce soit au Québec ou en politique internationale. La seule chose, c'est que, vous savez, Trump nous a un peu, comment je peux vous dire, on écoute les partis parler et lui fesse tellement dans le dash que on est comme un peu, comment je pourrais dire, immunisé par rapport aux promesses de nos dirigeants, parce que de toute façon, on sait qu'une fois qu'on va voter pour eux, ça peut changer. Mmh. Alors que Trump est rentré et malheureusement, bon, il est tellement extrémiste que lui, tout ce qu'il promet, ben il essaye de tenir parole. Et c'est le seul avantage que ce monsieur-là a, malheureusement. En tout cas, il est extrémiste, mais c'est comme ça. Alors que chez nous, ben on les écoute parler, mais tôt ou tard, on sait que malgré toutes les discussions que les gens peuvent avoir sur Facebook, ou malgré, les gens au travail, puis à un moment donné, on décide d'aller voter parce qu'il faut aller exercer son droit. Sauf que on sait que ça peut changer. Donc, on vote un peu à contre-cœur ou à contre... Mais on sait que de toute façon, ça ne tiendra probablement ou peut-être pas la route, malheureusement.
Parce que vous
peu
pensez,
importe pour qui on vote.
Jacques, vous pensez donc les belles promesses électorales, ce pour quoi vous avez voté, les idées de parti, ça ne tient pas en cours de mandat?
Ça change énormément. On arrive au pouvoir, on dit après ça que les budgets sont plus que... Bon, l'autre parti a laissé les finances. Attendez, vous allez voir, si la CAQ rentre, là, c'est encore la même histoire. Les libéraux nous ont laissé dans un état catastrophique, blablabla. Bla, bla. C'est toujours pareil.
Ça, vous avez pas entendu là-dessus. Puis ça, on l'entend pas juste au provincial, on l'entend partout.
Absolument.
On l'a entendu aussi au municipal. Ouais.
Mais là, on devrait avoir un changement de pratique de ce côté-là. La vérificatrice générale est supposée de faire rapport d'état des finances publiques avant l'élection.
Ouais.
Donc, on devrait avoir un changement de coutume, puis ça va être plus compliqué pour le parti qui prendra le pouvoir, si c'est pas les libéraux, de venir dire que les libéraux les ont laissé les finances publiques dans un état lamentable. Moi, je pense que les libéraux, on pourra pas leur reprocher d'avoir laissé les finances publiques dans un état lamentable. Peut-être les services publics ont écopé plus qu'ils auraient dû écoper dans le contexte, mais sûrement pas les finances. Fait que ça, on peut rassurer Jacques tout de suite, là. Si la CAQ rentre, soit un autre parti, ils ne pourront pas dire que les libéraux ne nous ont pas laissé d'argent en caisse.
Ils vont dire d'autres choses, là, mais peut-être pas ça.
Exactement.
Oui. Oui, Christian, qu'est-ce que tu as ajouté?
Oui, oui, en tout respect pour votre auditeur, moi, je ne trouve pas ça scandaleux, en fait, qu'un parti qui prend le pouvoir ne mette pas en œuvre toutes ses promesses. C'est dans la nature des choses. Il serait irresponsable, en fait, de se limiter à simplement remplir ses promesses. Le contexte peut changer. Il y a le principe de réalité. La politique, là, c'est pas parfait. Là. On est dans vraiment dans l'imperfection. On est dans le réel. On est dans le principe de réalité. Une chose que j'ai aimée de vos trois auditeurs qui ont appelé, c'est que les trois ont l'air de vouloir aller voter. Puis un point qui ressort de la loi sur les élections à date fixe, qui est un tas d'effets pervers négatifs que j'ai critiqué, je trouve qu'on risque de réaliser que puisque les élections vont se tenir le 1er octobre, tout de suite après les vacances, dans le mois de septembre, c'est la rentrée. Je trouve que c'est un bon contexte pour que les gens soient intéressés aux élections. C'est bien beau d'être critiqueux, là, mais là, on vient de sortir de vacances. Là,
on était
dans les
soucances,
la nonchalance. Là. Si on n'est pas capable de supporter un mois de campagne électorale, peut-être qu'on n'est plus capable de supporter la démocratie, point à la ligne.
Mais il y a un des intervenants, quand il a mentionné, là, on parle beaucoup de démocratie représentative. Mais votre deuxième interlocuteur, Catherine, il parlait de démocratie participative, d'avoir des structures, des instants. Puis moi, je pense que notre démocratie est malade, Christian. Je veux dire, quand tu as moins de 10 % aux élections scolaires, quand tu as moins de 50 % aux élections municipales, quand tu fais disparaître des conseils d'administration d'hôpital, à quelque part, là...
Mais même au municipal, c'est bien compliqué, même d'avoir un micro, là. Si ça fait pas l'affaire du maire ou de la mairesse, des fois, tu peux te faire sortir.
Pour aller se présenter à l'Assemblée. Fait que donc, dans ce contexte-là, il y a comme une nécessité de soin de la démocratie au Québec. Moi, je comprends qu'il faut aller voter le 1er octobre ou par anticipation, si on peut pas le premier. Mais après ça, je pense qu'il va falloir faire un travail de formation, d'éducation, de sensibiliser les jeunes dès le bas âge à l'importance de la démocratie. Puis en même temps, il va falloir recréer quelques structures de démocratie participative. Sinon, c'est le désintéressement. Puis d'une élection à l'autre, on va avoir de moins en moins de monde pour aller voter. Aux États-Unis, c'est quand même 50 % de population qui ont voté seulement pour la présidence du pays le plus puissant du monde.
Oui, alors, c'est faut dire qu'aux États-Unis, ça va assez mal depuis assez longtemps. Ça t'arrive pas avec un Trump comme ça, là, du jour au lendemain, ça sort de nulle part. Là. C'est, il y a quand même...
C'est sous-jacent, oui.
Ouais, c'est sous-jacent, mais la démocratie... Oui, il faut y participer. Puis c'est pas juste nécessairement de faire du bénévolat. C'est pas tout le monde qui a le temps d'écrire des lettres aux journaux, d'écrire à son député. Il y a plein de moyens que le citoyen peut prendre pour faire entendre sa voix pendant les quatre ans.
10h35, on s'arrête quelques instants et on continue de prendre votre appel, votre avis, bien sûr, sur la situation. Est-ce que vous avez encore un intérêt pour la politique? Et là, on parle beaucoup de comment on est tanné, c'est cynique pour certaines choses. Mais en même temps, je me dis... Ça en prend des gens qui s'en vont en politique, tu sais. On chiale, là, mais est-ce qu'on est si près que ça à s'engager, justement, dans notre communauté, à s'engager en politique? Parce que c'est une job, là, être politicien, là. C'est pas, tu deviens pas du jour au lendemain, là, je suis pas sûre qu'on est tous prêts à vouloir faire le saut. Alors, on va en parler, donc, après la pause au 1-866-790-9850. On est avec Régent Parent, ex-président de la Centrale des syndicats du Québec et chroniqueur au Journal de Montréal. Lise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal également. Il y a deux gazettes. On peut entendre aussi au 98.5. Il faut le dire, Lise. Écoute, ça arrête pas. Je suis fatiguée pour toi. C'est pas compliqué. Et Christian Dufour, qui est politicologue. On s'intéresse donc à la politique. Et est-ce que vous-même, en tant que citoyen, vous avez un intérêt pour la politique? On continue de prendre vos appels avec Alexandre. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Alexandre, vous pensez, vous, en fait, qu'on devrait changer le système de votation?
Oui, bien, je pense qu'on passe beaucoup de temps à essayer de faire fonctionner un système qui est dépassé puis qui ne fonctionne pas. J'aime beaucoup le fait qu'aux États-Unis, on ait des élections de mi-mandat pour pouvoir changer un peu la dynamique lorsqu'on n'aime pas ce qui se passe. Puis je pense qu'au Québec, on pourrait proposer quelque chose de similaire avec un changement en mi-mandat si le parti politique n'aurait pas respecté au moins la moitié de ses promesses, pour pouvoir lui offrir la chance de continuer à progresser dans son plan ou changer d'acteur si jamais on voit que ça n'a pas de bon sens, comment ça se passe, puis pas être pris avec les mêmes déboires pendant quatre ans.
Oui, mais est-ce que ça pourrait se faire ici, des élections de mi-mandat au Québec? Est-ce qu'on pourrait... On va demander à Christian.
Ben, c'est très difficilement compatible avec notre système. Ici, moi, en tout respect, là, ces temps-ci, là, je veux pas qu'on importe grand-chose de la démocratie américaine. Hein, je trouve pas que c'est un exemple pour nous, en tout respect pour votre auditeur. On a un système qui est pas parfait, mais qui nous donne des gouvernements forts quand ils sont élus, puis qu'on peut les démettre quand on n'est pas content.
Ouais,
moi, je défends le système actuel. Je défends le système actuel. Prenez par exemple, le Québec n'est pas indépendant. Il y a des gens qui aimeraient que le Québec soit indépendant. Mais on a un vrai gouvernement. Et les États-Unis, ces temps-ci, là, franchement, là, on est des spectateurs. Je m'autorise pas à être américain.
Moi, en tout respect de l'opinion de Christian, puis je la connaissais, son opinion, pour l'avoir entendue à plusieurs reprises. Moi, je suis plutôt partisan d'une modification au mode de scrutin pour avoir un gouvernement qui répondrait vraiment à une majorité de population. Le Canada, le Québec, je veux dire, depuis 50 ans, sinon 70 ans, c'est des gouvernements élus par une minorité de population au service d'une minorité de population. Donc, le scrutin proportionnel mixte m'apparaîtrait un judicieux compromis.
Mais ça serait
une autre émission.
T'en as deux contre toi, là.
Non, mais je rappelle juste que si on n'avait pas perdu les Québécois, là, deux combats structurants, les deux référendums qui ont eu des conséquences négatives à long terme, je me rallierais peut-être. Mais un scrutin proportionnel, là, ça va affaiblir la majorité francophone et les régions. On n'a vraiment pas les moyens de se permettre ça. Et je suis toujours étonné de voir des péquistes puis des gens qui sont pour la souveraineté proposer une réforme dont l'effet principal serait d'aider les libéraux et d'affaiblir. C'est pas nécessaire d'avoir un doctorat en mathématiques pour comprendre que ça va aider les libéraux, ça va affaiblir la majorité francophone et les régions. Et désolé, je trouve qu'on peut pas se permettre ça réalistement, les Québécois.
Mais de toute façon, au nombre de choses qui bougent pas au Québec, je pense que ça va rester.
Ça, à chaque fois qu'ils en parlent, quand ils sont élus, ils l'oublient.
C'est
ça. Alors, je pense qu'on est
compris Justin Trudeau à dernière élection.
Oui, exactement.
Dit, Catherine, si je peux juste revenir sur ce que dit Régent tout à l'heure, qui était intéressant. Quand il soulignait, en fait, la participation famélique, en fait, électorale, au niveau scolaire, au niveau municipal, il a raison. Mais moi, je trouve que là-dessus, c'est un peu spécifique au Québec, ça, et aux sociétés françaises. Il y a un intérêt net pour la politique québécoise, hein, bon. Mais dans les sociétés, je trouve, anglo-saxonnes, il y a un intérêt beaucoup plus grand. Au niveau local, les gens s'impliquent plus, les gens participent plus. Puis je trouve que c'est une des faiblesses de notre société. Et pour moi, là-dessus, d'ailleurs, je plaide coupable, parce que moi aussi, j'ai pas tendance à m'intéresser à ce point-là aux élections plus locales. Mais c'est une spécificité québécoise en partie. Ça.
Mais pourquoi, justement, on s'intéresse pas tant que ça? Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a une tradition à l'effet que ça doit venir d'en haut. C'est Louis XIV, je pense. C'est le roi soleil en France.
Des reines en Angleterre aussi, là, remarque. Mais le
pouvoir local en Angleterre, en Grande-Bretagne, est valorisé depuis très longtemps. Oui. Il y avait des rois et des reines, mais il y avait aussi beaucoup de barons puis de pouvoirs locaux. Je trouve que c'est une différence très, très nette entre le Québec
et les autres
sociétés.
J'ai écrit là-dessus récemment, justement, dans la Gazette pour leur dire que nous, les francophones, justement, contrairement à eux, tout ce qui était le community, hein, ce qu'eux appellent la communauté, nous autres, quand on entendait le mot communauté, en tout cas, chez certaines personnes d'un certain âge, on pensait communauté religieuse.
Ah, ouais.
Alors que pour eux, effectivement, c'est le quartier... Ouais. La rencontre des gens qui ont des intérêts très, très, très communs et qui les mettent en commun pour faire changer des choses. Je sais pas, ils ont peut-être plus de temps que nous autres.
Ils ont peut-être plus envie, justement.
Je pense que c'est plus dans leur nature. On dit tout le temps que nous, on est des collectifs. Hein? Les Québécois, alors que, oui, on l'est à bien des égards, mais en même temps, on n'est pas dans le communautaire personnel, là, pas les instances communautaires, à la manière des anglophones qui, eux, sont supposés être individualistes.
Mais faudrait peut-être plus le faire, justement, si on veut changer les affaires.
Je trouve que c'est une faiblesse. Une autre question que je me posais en écoutant mes collègues tout à l'heure, c'est la première élection depuis très, très longtemps où la question nationale n'est pas à l'ordre du jour d'une façon ou d'une autre. Là. Et est-ce que ça va diminuer l'intérêt des gens à aller voter? Parce que, dans le fond, depuis 40-50 ans, c'est un élément qui est important pour bien du monde. Alors là, c'est plus là. Est-ce que ça va avoir un impact sur le taux de participation?
Et le Parti québécois ne veut pas en parler parce que peut-être qu'ils se disent qu'ils vont manquer, ils vont peut-être perdre des gens, justement, parce qu'il y en a qui sont tannés en tabarouette là, de parler de souveraineté.
Et il y en a qui iront probablement pas voter parce qu'on n'en parle pas aussi.
Et puis, il y a peut-être des péquistes aussi qui sont plus tentés d'aller vers la CAQ parce que le PQ est pas rattaché à la souveraineté. C'est complexe, hein? C'est une carte qui peut jouer contre le PQ aussi.
Je suis pas dans le secret des dieux du PQ, mais je serais très surpris que le PQ agite pas le drapeau de l'indépendance d'une quelconque façon pendant la campagne électorale.
Ouais,
mais
ouais.
c'est l'avenir qui va me donner tort ou raison.
Ils se sont engagés à pas le faire, mais ouais, ouais, ça va être long.
Parce qu'en même temps, lisez ce qu'il dit, c'est pas de référendum avant 22, mais après 22, on se met en branle pour en tenir un, mais pendant 4 ans, on va se mettre au travail pour susciter l'intérêt des Québécois. Fait que c'est de la misère à penser que ça sera pas parlé
rien
pendant
la
campagne.
Non, mais c'est parce que si on n'en parle pas non plus, ben les gens, moins t'en parles, moins il y a l'intérêt.
Ceux qui sont
aussi,
les souverainistes très, très, très convaincus, là, doivent être frustrés que ça soit pas sur la table pour ces élections-là.
C'est sûr que si, à un moment donné, les gens en parlent, il faut qu'ils en parlent au bon moment. Ouais. Le timing est crucial là-dedans, parce que c'est une carte qui peut être dangereuse, mais Réjean a raison. En politique, là, c'est pas de la morale, la politique, hein. C'est pas un cercle intellectuel, c'est un combat. Puis au fond, les partis, puis moi, je leur reproche pas d'être opportunistes. Reprocher un politicien d'être opportuniste, c'est reprocher un poisson de savoir nager. C'est que là, dans le combat de la campagne électorale, qu'est-ce qui, pour le PQ en particulier, est susceptible, non, peut-être pas de les faire gagner, mais de leur éviter la catastrophe. Moi, je trouve que l'ISE, c'est clair qu'il va l'utiliser s'il sent que c'est rentable à un moment donné.
Et on va prendre un appel avant d'aller à la pause. Marc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, c'est la démocratie, je trouve ça bien. Où est-ce que je suis rendu dans la politique, ou qu'est-ce qui m'écœure, en guillemets, c'est d'entendre une publicité comme tantôt abaisser un parti pour essayer de se remonter. Je trouve ça pas sain. On essaie de montrer aux gens à être bien, d'être pas aller dans l'intimidation, tout ça. On est rendu là en politique. Est-ce qu'on peut montrer ce que nous, on va faire au lieu d'abaisser l'eau pour essayer de se remonter?
Monter le niveau un peu, là, ouais.
C'est incroyable. J'en reviens pas. Ouais. J'en reviens pas de la politique d'aujourd'hui. C'est une politique de salissage, toujours, de corruption.
Et pourtant, les libéraux, les caquistes se sont entendus de faire une campagne positive. C'est ce qui est sorti dans les
médias. Ça a duré 12 minutes.
Le dire, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Mais il y a le paraître, puis il y a l'agir après. Hein?
En tout respect pour votre auditeur, là, que je trouve bien, bien admirable, la politique, depuis le début, c'est un combat. Ouais. C'est l'encadrement de la loi de la jungle. Et dans un combat, là, il ne suffit pas d'être gentil. C'est sûr que par moment, si c'est rentable, tu vas rabaisser l'adversaire. C'est une des règles du jeu. C'est triste, mais c'est comme ça. Et je pense que ça va toujours rester comme ça, parce que c'est ça un combat.
Oui, puis il faut se rappeler, il y a bien des années, dans nos grands-parents, t'étais bleu, t'étais rouge, puis on se parlait pas dans les parties, puis la chicane pognait, c'était pas du même bord. Hein?
Oui, parce que dans d'autres sociétés, en fait, on s'entretue, il y a des révolutions, il y a des émeutes. Là. La politique, la démocratie, c'est l'encadrement de la loi de la jungle. Mais il faut pas trop en demander non plus. Là. Ouais. Le combat reste.
Ben, c'est vrai ce que tu dis, Christian, c'est que moi, je pensais que, de toute façon, de façon générale, on dit un parti ne se fait pas battre, il se bat lui-même. Fait que jusqu'à un certain point, se battre soi-même, c'est de mettre en évidence les travails du parti qui est au pouvoir.
10h47, on s'arrête à 1-866-790-9850. On continue de prendre vos appels après la pause. Est-ce que vous avez encore un intérêt pour la politique? On sait que le 23 août prochain, campagne électorale. Réjean qui m'incommode. On va aller voter le 1er octobre prochain, même si on dit que bon, la campagne va être lancée. Elle est un petit peu lancée quand même depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Alors, on continue d'en parler à 1-866-790-9850. On parlait durant la pause de ces personnages qui ont quand même marqué l'histoire du Québec. Il y en a eu des politiciens, peu importe le parti, peu importe les idées, il y avait quand même des gens extrêmement forts. On peut tous les nommer, là, tu sais, même au fédéral. Pierre-Éliott Trudeau, il a marqué à tort ou à raison pour plusieurs Québécois. René Lévesque, Lucien Bouchard, même Duplessis à l'époque aussi.
Duplessis, c'est un grand personnage.
Exact. Même au niveau municipal aussi, Jean Drapeau. Est-ce qu'aujourd'hui, on retrouve encore ce même type de personnage? C'est peut-être ça qui manque au Québec.
On a surtout aujourd'hui des gestionnaires, des gérants d'estrade, des gens qui gèrent plus à la petite semaine que des gens qui sont arrivés en imposant des visions et des personnalités pour rendre ces visions-là possibles. Genre, Robert Bourassa, l'électricité. Je disais,
Lise, je vous trouve dur. Parce que, quand vous dites des gérants d'estrade, nous, on est des gérants d'estrade, mais des gens comme Legault, Couillard, disaient, pour faire la politique aujourd'hui, il faut être très courageux. À certains égards, c'est plus dur qu'avant, parce qu'il y a les médias. Les médias sont là tous les jours. Un politicien doit passer la moitié de son temps à gérer les attaques des médias. C'est vrai ce que Lise dit, qu'avant, il y avait peut-être plus de vision, tout ça. Mais moi, je trouve qu'on a encore des gens courageux, des gens forts. Il faut être très fort pour se lancer en politique aujourd'hui. Moi, j'ai de l'admiration pour les gens qui font de la politique. Je trouve qu'il faut en avoir.
Bon, c'est vrai qu'on devrait en avoir. Là. Puis, moi, finalement, c'est peut-être des bonnes têtes à claques qu'on a de plus en plus. Là. Mais je trouve que c'est plus des pions. Je veux dire, les vraies décisions, ils se prennent de plus en plus ailleurs que dans nos enceintes parlementaires. Puis ça, je rejoins Lise de ce côté-là, que finalement, ça devient des gestionnaires, ça devient des gens qui, finalement, adaptent des décisions qui sont prises à un niveau international ou à un niveau même fédéral. Tu sais, on est en train de parler d'un gouvernement provincial avec toutes les limites que ça a, un gouvernement provincial. Fait que, dans ce sens-là, moi, en tout cas, j'ai un peu de même la même critique. Je trouve qu'on a de moins en moins de grands personnages. J'utilisais souvent l'expression je vais féminiser l'affaire, des personnes à stature de chef d'État. Me semble qu'on a de moins en moins.
Régent, je rappellerais que Robert Bourassa, là, qui est décédé, aujourd'hui, c'est le père de l'abbé James, on nomme des rues en son nom. À l'époque où il était premier ministre, il était méprisé par une grande partie de la population. On trouvait qu'il n'y avait pas d'envergure. Je pense que quand les gens sont morts, quand les gens sont dans le passé, on a peut-être tendance à les idéaliser un peu aussi.
Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je m'en souviens aussi, le Robert Bourassa. Écoute, il a quand même été élu, puis plus qu'une fois.
Mais il était
très jeune. Il était très, très jeune.
On avait dit l'homme le plus honni du Québec. Pierre-Éliott Trudeau l'avait traité de mangeur de... Tout ça est injuste, Lise, parce que moi, je suis de l'admiration pour Robert Bourassa. Mais à l'époque où il était premier ministre, en tout respect, moi, je trouve pas que c'était quelqu'un qu'on voyait comme un grand homme. C'est après, quand le temps a passé.
Avant d'arriver là, Christian, Bourassa, au lendemain, je veux dire, de Meech, quand Meech a été rejeté, quand il s'est adressé à la nation québécoise,
Québécoise,
je pense
Québec,
qu'il aurait pu faire suivre une très vaste majorité des Québécois. Donc, c'est pas après qu'il était mort qu'on a trouvé qu'il y avait bien de la lune. Ce soir-là, on trouvait tous qu'il y avait bien de la lune.
Et on va justement parler avec un Robert. Bonjour, Robert.
Oui, bonjour.
Oui, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez encore un intérêt pour la politique?
En fait, moi, j'ai un intérêt pour la politique. La seule affaire que je déplore, c'est le manque de mémoire des gens. Peut-être que vos interlocuteurs pourraient m'aider là-dessus. Hein. Le Parti libéral, il est au pouvoir depuis quand, mettons, à partir de 2000?
2003, avec Jean Charest jusqu'en 2014. On a eu un intermède avec Mme Marois. Puis ça a duré une douzaine de mois, puis on a retrouvé les libéraux.
Ben, tu sais, on s'entend que il y a pas beaucoup de partis qui ont pu, parce que j'écoutais tantôt là, on disait les politiciens disent que le parti d'avant il a mis la finance à sac puis tout ça. On s'entend que depuis ces années-là, là, il y a pas beaucoup de partis à part que le libéral qui ont pu se planter dans les finances ou dans transfert d'argent ou dans service ou quoi que ce soit là.
Qu'on pourra pas l'approcher au CAQ.
C'est sûr. Mais quoi qu'il les libéraux leur prochain petit peu au Parti québécois pour l'intermède, là. Oui. Quand ils sont revenus au pouvoir à ce moment-là.
Bon, on ne peut pas dire que l'enjeu de l'élection, c'est les finances publiques ou l'économie. Ça va assez bien de ce côté-là.
Mais justement, l'enjeu, ce serait quoi pour la prochaine élection?
Ben moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, je sais que ça fait très, très, peut-être pas cynique, mais pragmatique. Je pense que l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on se débarrasse du nom des libéraux.
Aussi clair que ça. Donc, on va parler pendant...
Écoutez, les trois autres partis, c'est vraiment le centre-centre-centre. C'est très spécifique au Québec. Il y a juste au Québec où c'est comme ça. Moi ça me frappe
on
à quel point Legault se recentre. Et c'est je critique ça. Je trouve qu'on aurait eu besoin d'un parti qui s'assume plus au centre-droit, peut-être au centre, mais à droite. Mais la CAQ essaye vraiment d'être dans le consensus québécois.
Et Robert, est-ce que vous allez suivre la campagne électorale avec intérêt?
Oui, évidemment.
Ben merci beaucoup, Robert, de votre appel.
Merci, bonne journée.
Merci, au plaisir. Mais à part là, faire sortir les libéraux, on va-tu parler d'autres choses? J'espère, en tout cas, pour l'automne, parce que sinon, ça va être une campagne qui va être longue.
Ça, c'est, Catherine, une excellente question, là, dans le sens où est-ce qu'on va arriver au contenu à un moment donné, puis est-ce qu'on va être en mesure de comparer les contenus qui sont avancés, la solidité de ces contenus-là, la faisabilité. Moi, actuellement, la lecture que je fais des propositions de François Legault, c'est évidemment, c'est raison. Il se tasse à gauche, il s'affirme, il se défend bien d'être à droite, il essaye d'être dans le nini, faire un Macron de lui-même. Mais en même temps, c'est quoi les contenus? C'est quoi que les partis nous proposent? Moi, je pense que l'enjeu, c'est pas tellement de débarrasser les libéraux. Ça va être entre quelle sorte d'État on va avoir, le moins d'impôts possible, puis on paye de notre poche personnellement le plus de services, ou on continue de mettre 38% du produit intérieur brut des services publics.
On va avoir le temps d'en parler en masse. 39 jours de campagne. On vote le 1er octobre prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Christian Dufour, politicologue, Régent Parent, ex-président de la CSQ, qu'on peut lire dans le Journal de Montréal, tout comme Lise Ravary, qui est également à The Gazette. On s'arrête quelques instants pour les informations de Cogeco et on se retrouve tout de suite après la pause. On va parler des microbrasseries québécoises. Mmh. Yeah.